Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans le débat d'Octet, le débat d'idées sur le monde du numérique. Avec moi ce soir, j'ai Adrien Ozias, qui va nous présenter son pseudo déjà, parce que ça c'est ton vrai nom.
Spring.
Voilà, Spring, comme le printemps, les ressorts.
Spring, ça existe.
Pardon ?
Voilà, c'est comme ça. Voilà. Oui, c'est ça, Spring.
Et comme le springboard
Spring
aussi.
Sur...
Voilà.
D'accord.
Ouais. Tout en même temps.
Vous l'entendez en ce moment parce qu'il parle par-dessus ma voix, c'est Angelus Yodasson. Bonsoir.
Pardon, chef. Bonsoir.
La balance.
Et vous l'avez entendu dire la balance, c'est Pof. Bonsoir, Pof.
J'ai dit sa balance.
Ah, bonsoir. Sa balance. Aujourd'hui. Pardon. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de consoles portables après avoir fait les consoles de salon. Ça vous êtes là chacun pour représenter une console. Est-ce que vous pourriez me dire quelle est la console que vous êtes là pour représenter? C'est pas très français, mais vous aurez compris.
Quelle console représentons-nous?
Voilà, c'est ça. Bah, vas-y, tiens, moi, tu fais le malin, Angelus.
Bah, moi, personnellement, c'est la DS.
Mm-hmm.
La petite console de Nintendo. Ouais.
Moi, c'est la Game Boy Color. Non, c'est l'iPhone et l'iPod Touch.
Et Adrien?
Eh bien, moi, ce sera la PSP.
Vu que c'est celle qui reste.
La PSP de Sony. Oui. Eh bien, oui, évidemment. J'aurais une iPhone, sinon, mais non. La PSP, non. Ce sera la PSP.
Tu sais que tu as mangé du Martien, du Daft Punk, je sais pas trop quoi. Mais ton son est pas terrible, terrible. J'espère que nos auditeurs voudront bien nous excuser. Malheureusement, on a fait un peu avec les moyens du bord et à la dernière minute. Justement.
Je dirais que la PSP de Sony et non pas la PSP de Alfa Romeo.
Oui,
je sais bien que ça sera mieux la prochaine fois.
Oui, voilà. Bah, de toute façon, c'est ton premier, c'est ta première émission même tout court.
Oui, donc, bien sûr, c'est ma première émission.
Donc, là, c'est ton premier travail.
Oui. Non,
c'est la première fois que tu vas te faire virer. Non,
pardon. Et d'ailleurs, tu vas gicler très vite. Alors,
profite.
Un peu de sérieux, justement, je parlais des poditeurs qui, j'espère, pardonneront Spring pour sa qualité de son pathétique. C'est au-dessus de pourra. Mais bon, encore une fois, c'est vraiment une question de contenu plutôt que de réalisation. Justement, je voulais parler de contenant. Et donc, j'avais lancé un petit sondage pour savoir si les personnes voulaient de la musique ou pas. D'ailleurs, dans les émissions type le débat d'Octet, par exemple, hein, vu qu'on est en train de l'enregistrer, autant parler de ça. Il y a eu pas mal de réponses. Globalement, les personnes n'en veulent pas, hein, à raison de 3 qui veulent contre 10 qui ne veulent pas. Donc, ça fait un rapport de 23% par 77%. Le seul truc, cette semaine, là, on va dire même mardi, donc c'était hier, au moment où on enregistre, car vous allez l'entendre tout au long de la semaine, il y a un certain TNT donc, qui nous annonçait qu'il détestait absolument les musiques et que si les musiques étaient encore présentes pour la troisième émission, il stopperait l'écoute de nos émissions. J'avoue que c'est un peu dommage pour lui. Et donc je dis bonjour à un certain Mathieu Blanco qui me Skype en plein milieu de mes enregistrements. Hein, attention à toi, je ferai la même chose un certain dimanche à 19h30. C'est macjt.fr. Voilà, comme ça au moins les choses sont réglées et les comptes se règlent. Et les rongles, ça ne marche pas. Donc... Je vais profiter donc de cette intervention de TNT sur le forum. TNT avec un post explosif, celle-là, elle est faite. C'est que donc, beaucoup de personnes n'ont peut-être pas bien compris le concept de pod radio et je vais prendre un peu de temps pour le réexpliquer. Alors, sachez que, avant tout, nous sommes une radio. et que donc c'est un peu une façon inversée de voir le podcast, et donc forcément ça induit des petits changements tels que par exemple l'inclusion de musique au milieu. Alors bon, c'est une nouvelle vision, je comprends qu'il y ait des détracteurs, je connais d'autres personnes qui ont lancé des choses beaucoup de personnes étaient contre. Prenons l'exemple de Steve Jobs, quand il a décidé de ne pas mettre de lecteur disquette dans l'iMac. Bon, je me compare pas à Steve Jobs, mais c'est un exemple de truc qui peut paraître absolument incohérent au premier abord, et qui finalement s'est avéré payant. En tant que garant du débat d'Octet, je rappelle quand même que j'ai déjà concédé. On a fait un juste milieu qui d'ailleurs me plaît pas tant que ça, mais bon, si vous déjà ça vous simplifie la vie, c'est le principe de, au lieu de mettre 8 chansons, d'en mettre que 2, de garder les deux pauses mais de les raccourcir drastiquement. En plus, j'ai essayé de mettre les chapitres la semaine dernière, bon apparemment ça n'a pas marché, on va voir cette semaine. Et donc, le truc quand même, c'est que nous, on a quand même un avantage face à d'autres radios, c'est que on n'a pas d'audience à avoir absolument sous peine de mourir, donc du coup, on a un peu plus les mains libres. Donc du coup, on a l'intention d'aller jusqu'au bout de cette vision, en fait. Quitte peut-être à ce que certains n'aiment pas, à la limite, on les comprend, on le respecte, et il y a d'autres podcasts sur le high-tech qui sont tout aussi bien, voire certains beaucoup plus professionnels que nous. Par exemple, celle des radios réelles, hein, FM, que je vous invite d'ailleurs à consulter aussi. Ne soyons pas sectaires. Bon, toujours est-il que, pour faire simple, on n'est pas là pour faire comme les autres podcasts. Et comme notre but aussi, c'est de prendre à contre-pied toute l'industrie des médias traditionnels, au sens radiophonique hein, surtout, où eux, en fait, ils déclinent leur radio en podcast, nous, on prend une communauté de podcasts et on en fait une radio. Bon, évidemment, pour que ça passe à la radio, on est obligé aussi de faire quelques concessions, au sens que nos productions propres, pour certaines, sont, on va dire, radiophonisées. Par exemple, la matinale contient de la musique, ainsi que le débat d'Octet, parce que, vu que c'est nous qui produisons la radio, on se doit aussi de faire un contenu qui soit un peu plus radiophonique. Donc, faut savoir du coup que la musique, c'est une part très importante, pour ne pas dire que c'est une des bases principales de Pod Radio, vu le temps qu'on y a passé. Enfin, surtout donc quelques autres Lemmings et moi-même. Et donc, je sais aussi que certains d'entre vous n'ont pas le matériel pour écouter une web radio dans les transports ou autres temps perdus, qui sont relativement propices à l'écoute de contenu audio ou à la visualisation de contenu vidéo, ça marche aussi. Donc, le fait d'inclure de la musique dans les podcasts, pour nous, c'est finalement une façon de vous faire partager un peu l'expérience Pod Radio, au sens que, en fait, eh ben, c'est des échantillons gratuits de radio dans vos oreilles. Donc, laissez-nous vous faire tester ces échantillons plutôt que de crier au massacre, parce qu'on renverse quelques règles du concept du podcast. Et d'ailleurs, j'en profite au passage pour faire une petite parenthèse sur la musique, pour ceux qui écoutent la web radio, que j'espère bientôt nombreux. Vous avez peut-être remarqué que la musique est beaucoup plus douce à partir de 23h, et ça, c'est dû à une programmation très intelligente de POF, qui a fait en sorte qu'il y a deux playlists, une qui démarre à 23h et qui se termine à 5h du matin, et qui est la playlist nuit, avec des musiques plutôt lounge, plutôt douces, enfin, quelque chose où vous pouvez dormir avec, hein, c'est pas gênant. Dormez avec Pod Radio.
J'avais brisé ces croyances. Elle se termine à 6h du matin et pas à 5h du matin.
Ah, autant pour moi, la boulette. Bon, enfin bref, grosso modo, ça accompagne à peu près votre rythme. Normalement, les gens normaux, contrairement à POF, se couchent vers 23h minuit et se lèvent vers 6h du matin. Et donc, en fait, on a tout fait pour accompagner votre rythme de vie, d'où la matinale d'ailleurs. Et d'où le débat d'Octet qui est avancé à 19h30 pour vous permettre de regarder votre série préférée, comme Dr House de temps en temps, par exemple, pour ne pas le citer. Donc, pour ceux à qui ça plaît pas, bah écoutez, je suis désolé. Et franchement, très honnêtement, je préfère voir Pod Radio ne pas correspondre à tout le monde, plutôt que de correspondre à personne et principalement de ne pas nous correspondre. Ça peut paraître très égocentrique, mais bon, on a envie de faire quelque chose qui nous plaise et dans lequel on croit. Voilà. Donc du coup, je tiens à dire désolé à ceux à qui ça ne plaît pas. Et puis écoutez, il n'y a pas de problème, on vous en veut pas spécialement de ne pas aimer ce qu'on fait. Par contre, ceux qui aiment bien, je veux bien recevoir des mails, ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les envoyer aussi à Pof, Angelus et Antoine, que vous pouvez trouver sur la page contact, parce qu'ils vont finir par me faire une énorme crise de jalousie, à force que ça soit que moi qu'on contacte. Pardon ?
Hein ?
Oui, ah, il a dit quelque chose ?
Non, pas du tout, j'avais pas du tout des notifications qui parlaient sur mon ordinateur.
Ah d'accord, c'était ça. Donc... une autre suggestion sur le forum pendant qu'on y est. Il y avait donc G qui disait que il y avait pas assez de d'articles sur la page d'accueil. Donc ça c'est pas principalement pour le débat d'octet, mais c'est en général. Et vu que j'ai le webmaster sous la main, je vais en profiter. C'est qu'en fait donc pour lui ça serait plus intéressant. Pardon ?
Non, je disais pas travail, pas travail.
Il disait que ça serait mieux d'avoir plus de news sur la page d'accueil. Et finalement, on est arrivé à un petit concept entre les deux, d'avoir un widget qui met les 10 dernières news. Est-ce que tu serais d'accord pour mettre plus de news ou le widget, pour toi, c'est un bon truc ? Parce que j'ai pas eu de réponse depuis.
Je pense que mettre plus de news, non, c'est pas gênant. Comme il m'a envoyé un message privé, le tout, c'est qu'il faudrait alléger le site parce que, par exemple, les petites images qu'on voit dans les widgets en haut qui donnent les dernières news matinales et tout, ouais, qui rappellent donc les émissions, les toutes petites images, en fait, sont énormes en réalité et elles prennent beaucoup de temps à charger. Donc, si on réduit toutes les images et qu'on les met à la taille d'affichage, oui, on peut mettre plus de news. Ça équilibrera un petit peu. C'est juste que comme j'ai pas vraiment eu le temps de le faire, de remettre les images à la bonne place, j'ai pas mis beaucoup de news en attendant parce que tout le monde se plaint que le site se charge lentement. Alors, j'ai préféré mettre moins de news.
Maintenant, il se charge quand même beaucoup plus vite depuis une semaine.
Depuis qu'on a tué les démons, qu'on a joué à Buffy.
C'est ça, c'est un peu l'idée. Bon, continuons. Si vous le voulez bien, dans la série des réactions sur le forum, sur lequel je vous invite à réagir, évidemment. Les chapitres devaient arriver dans le débat d'octet et n'ont pas marché, donc j'en ai parlé rapidement, j'en profite pour me réexcuser, c'est un problème d'Ubercaster, et normalement ça devrait être réglé dès cette émission, et je vais y faire doublement attention. Ensuite, je rappelle qu'on recrute toujours, si vous avez un son vaguement potable, contrairement à Spring, un peu au-dessus de Spring, ça peut être bien.
Soyez pourri, soyez pourri, je me retrouvais pas seul comme ça.
si vous avez un son vaguement correct, et que surtout vous avez la motivation, il en faut pas énormément, il en faut juste un peu, et vous avez envie de participer. Oui, c'est ce que je dis. Mais ça va, je joue souvent avec la motivation, en fait. Et c'est plus la motivation qui est importante que le temps, Pof, parce que finalement, si c'est quelques blogueurs, ça prend pas énormément de temps. Donc voilà, vous pouvez faire blogueur, c'est-à-dire, grosso modo, vous pouvez retraiter un peu les news qui tombent à votre sauce et les poster de manière très subjective. Hein, c'est un peu le but aussi de notre section Actu, c'est de pas faire des news qui soient journalistiques, c'est de faire des news sous la forme un peu d'un blog, vous voyez un peu votre avis sur la news. Et si vous voulez aussi enregistrer des news, ça cette fois c'est Angelus qu'il faut contacter directement.
Contactez-moi.
De même que si vous voulez faire des chroniques, par exemple, qu'elles soient écrites ou qu'elles soient parlées, toujours Angelus à contacter. Et si vous voulez donner un petit coup de main parce que vous y connaissez en code, contactez Pof. Voilà.
Voilà, c'est pour ça que moi, personne ne me contacte jamais.
Voilà, c'est ça.
Voilà, si vous avez des compliments à me faire et des lettres d'amour à m'envoyer, je suis là aussi.
Aussi, c'est vrai. On l'oublie trop souvent, d'ailleurs. Bon, sachez aussi, si vous avez des questions techniques, vous pouvez les envoyer sur le forum, encore une fois. Le forum, ce n'est pas que pour réagir aux émissions, c'est aussi le moyen de communiquer avec la communauté.
Un forum, quoi.
Oui, c'est un forum. Oui,
logique, mais dans le sens le plus strict de la chose.
Bah oui, mais bon, you get the idea, t'as compris. Oui, on va éviter les anglicismes, on va faire attention. Peut-être qu'on va démarrer le débat, qu'est-ce que vous en pensez ? Hein ? Donc, pardon ?
On disait qu'on était d'accord.
Nous acquiesçons de concert.
D'accord. Voilà. En même temps, j'avais dit que la musique était très importante chez Pod Radio, le fait qu'ils acquiescent de concerts. Reprenons.
J'étais sûr qu'il allait faire cette vanne de merde.
C'était évident. La dernière fois, vous vous rappelez, on a fait le débat sur les consoles de salon. Et justement, la première question, qui est d'ailleurs de Spring, est-ce que les joueurs attendent sur leur console portable la même expérience de jeu que sur une console de salon? C'est-à-dire, est-ce que la console portable est un complément de la console de salon ou une approche complètement différente du jeu vidéo? Et surtout, est-ce qu'elle peut s'y substituer à la console de salon? Qui veut réagir en premier?
Bah, moi, vas-y, je veux bien.
Allez, Angers.
Alors, pour ma part, je dirais non.
Faudrait que tu dises non à quoi, parce que ça serait plus simple.
Mais laissez-moi le temps de développer, je mets des points dans mes phrases, moi, monsieur. Non, c'est la première temps, je dirais non, point, voire même point d'exclamation. Pourquoi? Eh ben, pour la simple et bonne raison que je vais prendre un exemple concret, c'est-à-dire le mien de ma pomme Bibi. C'est-à-dire que pour la console de salon, j'ai une PS3. Donc, t'imagines, c'est un peu pour faire stéréotyper la console de gamer. Et en portable, comme on l'a dit, j'ai une DS.
Donc, il faut faire très attention à ce que tu dis, parce que la dernière fois, c'est parti dans un débat de 2 heures, hein, le fait de savoir si c'était un truc de gamer ou pas. Donc, s'il te plaît, pas de troll intempestif.
Non, c'est un truc de gamer, la PS3, c'est...
tout ça pour dire que on n'entend pas du tout la même... J'attends pas du tout la même expérience, forcément, d'une DS qu'une PS3, parce que, dans mon sens, justement, c'est la console portable, c'est quand t'es pas chez toi, donc t'as pas la console de salon sous la main, et que t'es en balade, que tu veux faire du casual gaming, que tu veux faire du jeu occasionnel, enfin, de temps en temps, ou même si tu veux faire du jeu un peu plus complet, je dirais, un peu plus long, dans le sens où tu prends par exemple un Zelda, un Mario ou un truc comme ça, où il faut quand même que tu restes plus de 10 minutes devant ton écran pour avancer un peu, ou du RPG, parce que moi j'ai aussi pris la DS pour faire du RPG, c'est justement que j'en attends une approche différente, beaucoup plus fun et beaucoup moins beaucoup moins prise de tête, dans le sens où c'est pas du gros jeu, quoi. Contrairement à la PSP qui, enfin, je veux pas empiéter, mais qui elle se veut plus comme je dirais une vraiment une PlayStation portable, donc une console de salon portable.
D'accord. Justement, tu parlais de la PSP, Spring.
Oui, moi je sais pas, je pense pas qu'il faut résumer le jeu portable au casual gaming, parce que oui, la PSP, je pense que c'est pas du tout la stratégie que Sony ont. Moi je dirais que en fait ça dépend des gens. Est-ce que vraiment on attend qu'une console elle réponde exactement aux mêmes choses que ce qu'on fait avec notre console de salon? Ça dépend des gens. Et puis les gens pour qui c'est pas le cas, je pense qu'ils prendront plus un iPhone et un iPod Touch. Une PSP ça va être plus comme une PS2 justement. Donc c'est plus le public de la PS2 qui va se tourner vers la PSP. Ou la PS3.
C'est le public PS, oui. PS3 qui se tourne vers la PSP. D'ailleurs, oui. vu que
je pense
que c'est
complètement
le PSP.
Oui, je pense que c'est complètement le public Sony-esque, enfin, je sais pas comment on dit, le public de Sony qui va choisir la PSP.
Les Sony fanboys.
Voilà, les Sony fanboys.
Les PlayStationiens.
Les PlayStationiens.
Ouais, voilà, enfin, tout ce que vous voulez. Et je pense que c'est eux qui vont se tourner vers la PSP parce qu'ils vont voir là-dedans quelque chose qui leur correspond, qu'ils connaissent déjà l'univers Sony, je pense.
Voilà. Oui, mais surtout que je tiens à rajouter, il y a une interconnectivité. Je vais la refaire. Il y a une interconnectivité. Merci. entre la PSP et la PS3, d'autant plus. Ce qui rajoute un peu ce côté écosystème et qui conforte encore plus les fanboys dans leur choix.
Ah ben trop, enfin vous me direz si je me trompe,
trop.
Mais il me semble qu'on peut faire...
On parle pas le petit couloir, monsieur, ici.
Non, oui, c'est vrai. Non, mais on peut faire... je crois qu'on peut s'en servir de rétroviseur de la PSP quand on a une PS3, il me semble. Vous me direz si je me trompe.
Rétroviseur.
Oui, c'est l'écran qui est très brillant.
Pour certains jeux comme Burnout.
Non, mais ça c'était le côté, ça a toujours été annoncé, ça n'a jamais été fait, je crois.
Pour avoir une PSP et une PS3, j'ai pas Burnout, donc du coup forcément ça marche pas.
Non, mais c'est le côté, il disait ouais, quand tu feras Gran Turismo, ça pourra te servir de rétroviseur, machin, patin couffin, mais ça a jamais été fait, quoi.
Ouais, voilà.
Ça me rappelle un peu la Dreamcast, hein, quand même, où il y avait ce petit écran, vous vous rappelez, ce petit écran LCD de 4 pixels par 4 pixels, enfin j'exagère un peu, qui devait servir à pas mal de choses et qui finalement servait juste de carte mémoire.
Ça me rappelle un peu le coup de la Game Boy Advance qu'on pouvait brancher sur aussi, la GameCube et qui a servi pour deux jeux.
Ça servait de manette aussi, et puis ils ont fait ça pour deux jeux.
Ouais, voilà, pour Zelda, ils faisaient ça. Non, mais au-delà de ça aussi, pour la PSP, Sony vient de lancer un système pour pouvoir piloter sa PSP par Wi-Fi. Par exemple, quand vous êtes de l'autre côté du monde, apparemment, vous pouvez allumer votre PS3 et accéder aux films qu'il y a sur votre disque dur.
Ça, aussi. C'est pratique. Il faut avoir une bonne connexion.
Bah oui, ça peut être utile. Et puis bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand on veut des films, on est souvent dans le train ou dans des choses comme ça, et c'est pas forcément le wifi, quoi. Donc l'intérêt est limité.
Mais cela dit, je m'aperçois qu'on dévie quand même un peu de la question initiale.
J'ai pas vu la question.
Et justement, je vais demander à Paul de la recentrer, vu qu'apparemment il a l'air volontaire.
Oui, j'ai l'air volontaire pour te demander quelle était exactement la finalité de la question, vu qu'après toutes ces paroles, je n'ai plus les termes exacts.
La question, c'était grosso modo, quelle est la différence entre une console de salon et une console portable, d'un point de vue expérience utilisateur, et est-ce que la console portable peut se substituer à une console de salon? En l'occurrence, on n'a pas de console de salon dans le domaine iPhone et iPod Touch. L'Apple TV ne faisant pas encore console, on ne sait jamais, ça pourrait venir. Donc, du coup, le.
Steve Jobs, si tu nous écoutes.
Voilà. Il y a eu une console de salon, la Pimpin, mais elle n'a pas eu un grand.
Elle n'a pas eu un grand marché d'après.
Voilà. D'ailleurs, c'est pas la Pipin, d'ailleurs, je ne sais plus, peu importe.
Si, il me semble que c'est ça. Je dirais que les consoles portables, comme leur nom l'indique, sont faites pour être portables. Mais après, si chez toi t'as pas forcément la place ou l'argent, parce que les consoles portables coûtent en moyenne moins cher, parce que si on regarde un iPod Touch ou un iPhone, si on le considère comme une console portable, c'est pas forcément vrai. Mais en moyenne, ça coûte moins cher qu'une console de salon, et ça peut convenir à certains publics qui n'a pas les moyens d'acheter une console de salon ou qui n'a pas la place. Par exemple, quelqu'un qui vit dans un tout petit studio parce qu'il a pas du tout d'argent, il a peut-être pas la place de mettre une grande télé avec une PS3 ou une petite télé avec une Wii ou une grande télé avec une...
Ça, c'est un faux problème. Même dans un petit appartement, tu mets une petite télé, une petite console. J'avoue que pour la Wii, il faut un peu de la place quand même.
Voilà, pour la Wii,
ce
serait
jouer dans un placard, c'est un peu difficile. Mais n'importe quelle autre console, de toute façon, limite, plus c'est petit, plus tu seras près de ton petit écran. Donc,
sans parler de ça, t'as des gens qui... T'as des gens qui n'ont pas le temps aussi de jouer, qui rentrent super tard du boulot, ils vont se coucher le matin, ils se lèvent tôt, ils vont au boulot. Des gens qui ont besoin qui s'en servent dans les transports en commun.
Un peu comme pour les ordinateurs en général, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin du côté portable.
Mais je peux pas parler à chaque fois que je dis un truc, tu dis oui, mais non, mais de toute façon. Et donc, la console portable peut se substituer pour un certain public qui n'a pas le temps de jouer sur des consoles de salon, mais sinon c'est une expérience totalement différente, parce que les jeux sont aussi plus orientés portables, où les jeux sont faits pour être joués n'importe où en fait. Alors que t'as des jeux où t'as besoin de te concentrer et tout, que tu pourrais peut-être pas faire dans des transports en commun, etc. C'est-à-dire que t'as certains jeux sur des consoles de salon qui seraient quand même assez compliqués de faire dans le métro.
Bah écoute,
par exemple, les lapins crétins sur Wii, ce serait compliqué à faire dans le métro.
Bah ça serait con, surtout. Ça serait pour un compliqué. Con. Mais justement, et là je vais pour réagir à ta question, je vais demander à Spring. Le truc c'est que si Pov dit qu'il y a pas mal de jeux, enfin que les jeux sur console de salon se doivent d'être je vais la reprendre dans l'autre sens. Les jeux sur console portable se doivent d'être différents des jeux sur console de salon. Qu'en est-il des portages, par exemple, des jeux PS1 sur la PSP? Parce que c'est des jeux de console de salon qui ont été portés sur une console portable. Donc est-ce que c'est pas finalement assez gênant d'avoir des simples portages à la place d'une réadaptation du mode de jeu?
Ami de la question piège. Oui, donc moi apparemment je suis censé défendre la PSP, donc ça va être dur.
T'es pas censé la défendre, t'es censé la représenter, donc t'as le droit quand même de la critiquer, monsieur. C'est pas complètement un jeu de rôle, on se doit d'être quand même fidèle à soi-même.
Non, faut quand même faut dire que c'est pas vraiment des copier-coller. Moi, je me rappelle quand j'avais ma PSP, parce que je l'ai vendue, oui, monsieur. Mais quand j'avais ma PSP, j'avais acheté Medieval Resurrection dessus. Bon, mais enfin, c'est un jeu parmi d'autres où il y en a plein. Il y a Burnout, il y a plein de grandes séries adaptées par Sony. Bon, ils adaptent pour la PSP, mais c'est quand même pas exactement la même version. Et il y a des choses différentes qui s'adaptent jusqu'au moins aux consoles portables.
Non, attends, là, toi, tu parles pas d'un portage, là, tu parles de la reprise de Medieval. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont repris Medieval sur PSP, mais ils ont, enfin, ils ont sorti Medieval Resurrection, mais ils ont aussi sorti la version PS1 de Medieval.
Oui, ah oui, ils ont sorti la version PS1, oui.
Donc, ils en ont même sorti deux, je crois d'ailleurs, version PS1.
Bah, ils ont sorti plusieurs jeux en version PS1. Ils ont sorti quasiment les plus gros titres, à part les Gran Turismo, malheureusement.
Oui, bah, mais je pense que c'était pour un problème de graphisme d'ailleurs.
C'est possible. C'est possible.
Mais plus grand avantage du Gran Turismo était le graphisme. Mais... Oui.
En fait, si je peux me permettre de rentrer sur ton terrain, ce que tu disais, c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure et qui confirme, c'est que la PSP n'a pas vraiment le même public que le public d'une console portable, parce que la PSP c'est peut-être un peu plus, je sais pas, un peu plus adapté à des gens qui sont déjà sur Sony et sur la PlayStation et
oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas une console portable, c'est une console de salon portable.
Ouais, voilà, c'est un petit peu ça. C'est pas vraiment la vraie console portable parce qu'il y a pas des, il y a pas que des, il y en a, mais il y a pas des jeux faits directement pour être portable. Il y a beaucoup de portages. Il y a
la plupart, c'est un peu le problème.
Mais justement, si, oui, je mets justement si là où je défends là où je défends la PSP, c'est que imaginez un gars qui veut vraiment une console portable. Bon, et qui hésite entre la DS, la PSP et l'iPhone. Et ben moi, je pense que je lui conseillerais la PSP parce que c'est la seule console qui permettrait vraiment de répondre à un vrai gamer si le gars vraiment il aime bien jouer quoi. Parce que la DS pour certains trucs c'est un peu gadget quoi. On va pas jouer à Cooking Mama toute la journée quoi.
Angelus, je te laisse l'autorisation de répondre à cette espèce de gros troll qui vient d'être lancé.
Non, bah y a pas de gros troll, c'est que l'avantage de la DS c'est que tu peux jouer à Cooking Mama, à entraîne ton cerveau avec le docteur Hiroshima. Oui, je sais, c'est pas le vrai nom, mais c'est beaucoup plus fun comme ça. ou te faire un Zelda, ou pour quand t'es un gamer te faire un Zelda, un Shiny Titan Wars et autres jeux. Tandis que sur PSP, si on veut passer en troll mode, c'est-à-dire que t'as une PS3, enfin t'as surtout une PS2 et une PSP, ben t'as juste les mêmes jeux. Voilà, c'est-à-dire que moi j'ai eu une PSP, donc je sais un peu de quoi je parle aussi. Et d'ailleurs, je l'ai laissé tomber pour la DS, c'est que t'as pas de bibliothèque propre. Voilà, c'était.
T'as pas énormément de bibliothèques à jour d'ailleurs.
Voilà. Non, mais voilà, oui, c'est que autant la DS, t'as des jeux propres qui sont faits pour la DS, exclusivement pour la DS, et t'as un catalogue qui est beaucoup plus fourni que la PSP, quoi. On en revient à ce que j'avais entendu sur un autre podcast très connu dont on arrêtera de citer le nom parce qu'à chaque fois on fait référence à eux. Mais qui disait qu'à chaque fois qu'on croise. Bah, c'est nos amis de Gameblog qu'on aime bien, voilà. Qui disaient qu'à chaque fois, et ce qui est très vrai aussi, qu'à chaque fois qu'on croise des gens qui ont une PSP, ils font tout sauf jouer dessus, parce que déjà, il n'y a pas forcément de jeu, c'est qu'ils s'en servent de trucs multimédia, ils regardent des films, ils écoutent la télé.
On en parlera tout à l'heure, justement, des fonctions hors jeu, on va dire.
Non, moi je pense. Oui, vas-y.
C'est bien, je suis content que tu penses.
Bon, c'est un plus, s'il vous plaît, veuillez ne pas couper POF.
La PSP en fait c'est effectivement quand il porte un jeu en fait c'est quasiment l'identique, il retravaille pas le gameplay etc, alors que sur la DS on a l'impression d'avoir un catalogue plus propre à la DS simplement parce que le gameplay est complètement différent que sur une console de salon grâce à l'écran tactile et qu'en général du coup il change le gameplay par rapport au titre sur console de salon et donc ça donne une impression de différence de jeu complètement original.
Et bien justement Pof, tu viens de... Non mais stop, pop. Justement Pof m'a fait une transition magnifique vers la deuxième partie qui va être consacrée au gameplay justement des consoles, les gameplay spécifiques où il me faut toujours une transition et donc on se retrouve juste après ça.
Le débat d'Octet sera de retour sur Pod Radio après cette petite pause musicale.
Walk on her. I never stop, but I take, and I remove. take me home. Can you take me home? Can you take me home? Space invaders, I will never gonna shoot you, I never gonna, never gonna shoot you, come along. Space invaders, I will never gonna shoot you, I never gonna, never gonna shoot you, come along. Where do I belong? Can you take me home?
C'était Space Invader de Pornophonic, les mêmes qui font les Mix in Love, hein, pour ceux qui écoutent un peu la playlist.
Bon, bah c'est le retour du débat de
et,
je ne sais pas ce qui
donc,
se passe, personne
coup,
ne veut parler.
Je voulais quand même vous rappeler que on a une playlist et que donc vous pouvez l'écouter. Nous en étions dans le débat d'octet, je rappelle, pour ceux qui seraient en train de nous rejoindre. Nous parlions du gameplay dans la première partie, nous commencions doucement à divaguer dessus. Et donc je vais poser ma première question qui va peut-être faire rebondir ceux qui ont oublié de quoi on parlait. Donc avec l'ADS et aussi sur l'iPod et l'iPod et l'iPhone et l'iPod Touch, on a une chose qui s'appelle un écran tactile. Et donc la question c'est en quoi ça peut influencer la façon de jouer en positif comme en négatif. Messieurs,
eh bien, la façon de jouer, pour faire l'habile transition entre les deux parties, donc de avant la musique et de après, c'est que on parlait de portage sur la PSP. C'est vrai que du coup sur la DS, ils sont obligés de tout repenser quand ils veulent faire un jeu, parce que il faut le reconnaître quand même, des limitations techniques à la DS qui fait que dans 90% des cas, quand tu essayes de faire de la 3D, c'est tout moche. Hein. Donc du coup ils sont obligés de refaire un jeu différent, de le refondre, et que du coup ils sont obligés de repenser tant qu'à y être aussi le gameplay pour l'adapter à la DS. Alors des fois c'est bien fait, dans le sens où tu sens que ça a été vraiment vraiment pensé pour, parce que les gens s'attendent à avoir du tactile et à pouvoir se servir du stylet quand tu fais un jeu DS. Et
des fois c'est pas mieux d'ailleurs.
Voilà, mais des fois c'est pas très bien fait, parce que tu sens que les gens ils ont fait rentrer ça un peu au chausse-pied pour dire bon, on va leur mettre du stylet parce que c'est ce qu'ils attendent sur la DS. C'est-à-dire par exemple sur sur certains jeux où ça aurait été fait avec des boutons, ça aurait bien été mieux. J'ai un exemple qui me vient en tête, c'est par exemple le dernier jeu de catch, par contre j'ai plus le nom, mais qui a été fait sur DS, où c'est un super jeu, sauf que ils se sont dit bon on va faire ça au stylet, uniquement au stylet, et du coup tu pourras pas diriger ton personnage avec les boutons, ce qui fait que le jeu est très bien techniquement, même pour la DS ça arrache un peu, il y a des super prises et tout, mais c'est juste injouable.
Ah, c'est dommage.
Parce que les gars, ben oui, c'est parce que tu vois, le jeu aurait pris une super note et tout, sauf que ben, tu peux pas t'en servir parce que tu es obligé de faire ça au stylet, que ça prend trois plombes, que c'est pas réactif et que voilà, c'est naze. Après, en contrepartie, tu prends des jeux comme je sais pas, parce que là, ben, du coup, il y en a beaucoup plus, si, mais comme si, Professeur Layton, comme les Zelda ou les choses comme ça, où les phases de stylet sont beaucoup, beaucoup mieux emmenées, servent vraiment à quelque chose et t'aident à progresser dans le jeu, quoi. C'est pas, on colle ça parce qu'il faut en mettre et que c'est de la DS, quoi.
Si je pouvais juste dire quelque chose, c'est que le jeu de catch s'appelle WWE SmackDown vs Raw 2008.
Oui, ça doit être celui-là.
À tes
souhaits. C'est.
Mais tu vois, sans avoir le titre sous les yeux, c'était un peu tendu.
Oui. Forcément. Et il est sorti en novembre 2007, ça fait un moment déjà.
Non, mais ils en ont sorti un autre pour.
Oui, mais apparemment, c'était déjà injouable, donc ils n'ont pas appris.
D'accord.
Donc là, on a vu le côté DS. Le côté iPhone. Alors, c'est quoi les avantages et les inconvénients, en gros, du jeu tactile, j'ai envie de l'appeler comme ça, le jeu tactile.
Du jeu tactile, et puis on peut aussi parler de l'accéléromètre, mais je vais.
On en parlera. On en parlera après, c'est prévu.
D'accord.
Alors, pète pas mes questions à l'avance, s'il te plaît.
Eh ben, l'avantage, c'est pareil que sur la DS, ça offre un gameplay un petit peu différent des autres consoles. Et l'inconvénient principal, par contre, ce serait que, étant donné que c'est pas vraiment du vrai tactile, mais que c'est plus du touch, en général, même si on a des petits doigts, c'est pas très précis et c'est pas le plus maniable du monde. C'est-à-dire que le jeu de catch que cite Angelus, si on l'imagine sur l'iPhone, ce serait encore pire, je pense.
Oui, ça c'est.
Et puis même, il y a certains jeux où tu sens que l'absence de boutons se fait un peu cruellement sentir, à tel point qu'il y a certains où en tactile, ils te rajoutent des boutons sur l'écran pour que tu puisses cliquer, quoi.
Ce qui est pas forcément du meilleur effet, d'ailleurs.
Tu vois. Donc c'est le côté, tu vois, finalement, le tactile, c'est peut-être pas foncièrement la réponse à tout, quoi.
Voilà.
Mais justement, le.
Et puis d'autant qu'il n'y a pas de retour.
Pardon ?
D'autant qu'il n'y a pas de retour sur le iPhone et l'iPod Touch. C'est-à-dire que quand on joue, enfin, moi je sais pas, j'aime bien
c'est
sentir.
C'est pas vraiment où on appuie, en fait.
Bah ouais.
Oui, voilà.
Et par contre, il y a quelque chose qui pourrait remédier à ce problème, c'est que. Du côté obscur de la force de l'iPhone, c'est-à-dire du côté jailbreak, il y avait une petite entreprise qui s'était formée et qui voulait créer une espèce de coque iPhone qui donc a une espèce de une prise dock en gros, et on glisse l'iPhone ou l'iPod Touch dans cette coque, et en fait sur la coque il y a des boutons, il y a une croix directionnelle, quatre boutons et un bouton Start Select. Et
oui, donc en gros, ça transforme l'iPhone en une PSP, quoi.
Et ça ne marchait qu'avec certains jeux faits en jailbreaké. Sauf qu'avec le nouveau SDK de l'iPhone qui permet d'utiliser le port dock, on peut penser que ça pourra être commercialisé à une plus grande échelle. Et
il y en a qui bossaient aussi sur
pas mal de jeux.
Enfin, c'était pour simuler aussi un peu plus un clavier physique, mais je pense que ça aurait pu être utilisé dans les jeux. C'est qu'ils essayaient de faire un semblant de retour de force en utilisant le vibreur, je crois, aussi.
Oui,
pour
aussi,
simuler
mais
quand t'appuies sur les touches ou les trucs comme ça.
Ouais, mais c'est.
Il y a déjà
c'est
des pas con, téléphones c'est pas mal qui font ça. Ouais, il y a déjà des téléphones qui font ça, les Samsung, tout ça, ils le font déjà. Quand on appuie comme ça, on a une espèce de petit retour de force, une espèce de petite vibration.
Et il y a il me semble que c'est le BlackBerry Storm qui.
Ouais, lui, c'est l'écran qui s'enfonce.
L'écran s'enfonce, en fait. L'écran est un bouton.
Ouais, lui, c'est complètement cliquable. Ouais,
c'est un touchpad, quoi. C'est un peu façon touchpad des.
Ouais,
des
en fait,
MacBook,
ouais.
Oui, mais là, c'est pas un débat sur l'iPhone, mais bon, le truc, c'est vrai qu'on a du mal quand même à imaginer la dalle en verre s'enfoncer touche par touche. Ou alors, faudrait du verre qui serait un peu.
Moi, j'ai essayé, ça
n'a
pas marché.
Oui, enfin, oui, toi t'as essayé. Oui, toi t'as essayé un peu trop fortement d'ailleurs. D'où les petits éclats de l'écran.
T'as essayé contre le carrelage.
Ouais. J'ai bien eu le côté retour de force, mais ça s'est pas enfoncé.
Sinon, on avait le, on a dit qu'il n'y avait pas de bouton sur l'iPhone et l'iPod Touch, mais finalement, les accéléromètres, ça remplace pas déjà une bonne partie des boutons?
Bah, c'est ce qui les sauve un peu en même temps, hein. Enfin, sans griller pof, oui, c'est ce qui les sauve un peu, qu'il y a l'accéléromètre.
Écoute, l'accéléromètre, s'il était correctement géré et assez précis, ça pourrait remplacer les boutons, mais
parce que des fois, c'est un peu du on-off, quoi, l'accéléromètre. Il faudrait, limite, pour faire référence à nos amis de Nintendo, on a plein d'amis, nous. Il faudrait un accéléromètre Motion Plus, tu vois.
Ouais, voilà, c'est ça.
Voilà, c'est le truc qui te gère plus finement les accéléromètres, parce que la plupart des jeux de voiture, c'est du on-off, quoi. Quand t'as ta bille de mercure qui touche, tu tournes à fond à droite, à fond à gauche, mais t'as pas trop de...
Sauf que les accéléromètres,
t'as pas la précision que tu pourras avoir
sans
sur...
Sans rentrer dans la technique, les accéléromètres, oui, c'est pas une bille de mercure. Mais...
c'est plus du gyroscope. Ce que je tenais à dire, c'est par exemple, on a eu beaucoup, justement, par rapport aux... des niveaux dans le sens ce qu'on utilise en bricolage qui sont sortis en application sur l'iPhone, et si tu les posais sur une table totalement plane que tu vérifies avec un vrai niveau, etc., l'accéléromètre a souvent quelques degrés de d'erreur, mais c'est de 3 degrés d'erreur par exemple.
Ah, mais ça, c'est le calibrage initial.
Oui, aussi. C'est le calibrage initial, sauf que la plupart des jeux, maintenant, ils le font de plus en plus, mais la plupart des jeux n'avaient pas de calibrage. Donc, du coup, tu te retrouvais avec un jeu qui n'était pas du tout adapté.
Et une voiture qui tirait à gauche ou à droite, c'est ça.
Voilà, c'était un petit peu. Ils ont vraiment dû tenter 20 milliards de jeux avant de. Bon, pas autant, hein, parce qu'on n'en est pas à 20 milliards.
D'ailleurs, bientôt la milliardième application téléchargée.
Le milliard.
Il y a le Martien qui. Tentative à
vendre. Fin des inconnus, bonsoir. Non, mais j'ai des références, moi, monsieur.
Vous savez, vous calmez. Donc, je disais, oui. Ils ont dû faire beaucoup de tentatives avant de réussir à avoir un accéléromètre qui marche bien. Et encore dans certains jeux, c'est vraiment, je pense à Payback, le jeu qui est un GTA-like sur iPhone, où on se déplace en utilisant l'accéléromètre. Et c'est quasiment injouable parce qu'en fait, on va dans tous les sens, on zigzague, on a l'impression d'être complètement sous dans la rue, quoi.
Mais de toute façon, est-ce que Apple avait conçu son accéléromètre de son iPhone pour jouer à des jeux? Parce que vous savez, enfin, quand il est sorti en chef, c'était qu'en 2007. Est-ce qu'ils avaient vraiment prévu mettre des jeux dessus? Est-ce qu'ils l'ont fait assez précis pour ça?
C'est pour ça que celui de l'iPhone 3G est plus précis que celui de l'iPhone Edge.
Ouais.
C'est parce que comme ils ont voulu sortir l'App Store et qu'ils ont prévu qu'il y aurait des jeux qui pourraient l'utiliser, ils en ont fait un plus précis. Celui de l'iPhone Edge est beaucoup moins précis que celui de l'iPhone 3G.
Nous promettre encore un meilleur. Enfin, une meilleure optimisation, oui, une meilleure optimisation, je sais, c'est redondant, sur le V3.
Le troisième iPhone sera un gyroscope.
Voilà. Alors, en plus...
Avec un 3310 posé dessus.
Et non pas un 33 tours.
Non, parce que ça n'a aucun rapport, monsieur.
Oui, voilà, je vois pas ce que ça vient faire dans le débat, Angelus, mais bon, enfin,
il y avait juste 33 de commun, donc lui, ça y est, il...
D'accord.
Et l'autre, il parle de 3310, il parle de vieux Nokia, ça passe, alors merci.
Heureusement que c'était pas 23, hein, parce que sinon, après, ça serait parti en sucette.
Ça aurait pas été jouable.
Non, ça aurait pas été jouable, après, vous auriez été déconcentré, tout ça. Bon, sinon, quand même, l'histoire de casser un peu les reins à l'ADS, ou en tout cas, peut-être que ça marchera pas, mais vu que...
Allez, viens, je t'attends.
Vu qu'Angelus a l'air bien chaud pour la défendre, il y a quand même un truc moi qui me turlupine, et je reste poli vis-à-vis de la DS. C'est le principe d'une console qui a non seulement un stylet mais des boutons de part et d'autre de l'écran. Alors la question qui se pose, c'est comment tu fais pour y jouer sans compter greffer une troisième main, parce que pour t'avoir vu en vrai, tu n'en as que deux. Contrairement à une majorité de la population qui en a trois. Et non, c'est pas ça. Et donc comment tu fais donc pour y jouer? Est-ce que les jeux sont étudiés pour...
Eh bien voilà, c'est déjà là où tu... Mais oui, justement. Non, mais c'est justement là où d'emblée tu peux voir une différence entre, je dirais pour faire simple, les bons jeux et les jeux qui sont, comme je disais tout à l'heure, foncièrement pas optimisés DS. C'est quand t'es obligé de jongler et que c'est pas optimisé. Mais l'avantage justement, c'est que pour ça, parce que moi j'y vois plus un avantage qu'un inconvénient, c'est que dans la plupart des temps, à part justement Joe le jeu de catch, là, c'est que tu peux tu peux choisir ta, la maniabilité que tu veux. C'est-à-dire que si tu es plus adepte des boutons, la plupart du temps, tu pourras te servir aussi des boutons. Et tu peux, ou tu pourras te servir du stylet.
C'est les adolescents acniques qui vont être contents de pouvoir se servir de leurs boutons.
Voilà, alors... mais sans les éclater, sinon après ta machine elle marche plus. Mais ami et poète, bonjour. Mais tout ça pour dire qu'en fait t'es un peu le meilleur des deux mondes, quoi. C'est-à-dire que si tu tentes par exemple un Mario Kart, bon je vais peut-être dire une grosse connerie parce que Mario Kart, j'avoue que je l'ai pas encore fait sur DS, mais je pense que pour conduire machin tout ça, ça vaut peut-être mieux avoir des boutons et la fameuse croix que le stylet, tu vois. Par contre après va faire un professeur Hiroshima ou un docteur Layton ou un docteur Layton avec les boutons et répondre A B X machin, vaut mieux un stylet, quoi.
Ouais. Bon, ça pourrait c'est marcher avec des questions-réponses, voilà. Style quiz par exemple. Mais
ouais, mais je pense que tu perds un peu, ouais.
Et voilà. Après, et sinon, moi je pensais au jeu Bleach, qui en fait est un jeu de combat, c'est un peu genre à la Tekken.
C'est un mélange entre Tekken et Naruto, quoi, un peu.
Voilà. Donc en
parce
fait,
que à la base, c'est aussi un manga.
Tu utilises. Oui, je sais. Tu utilises.
Mais les gens ne le savent pas foncièrement. Pense aux auditeurs.
Oui. Donc tu utilises les boutons et en bas sur l'écran tactile tu as des cartes qui en fait te permettent de faire les attaques spéciales. Et alors donc à moins que tu aies une troisième main pour utiliser l'écran tactile, le seul moyen de vraiment pouvoir faire des attaques spéciales,
c'est mettre un gros coup de tête.
C'est d'avoir des ongles et de très rapidement appuyer avec l'ongle sur l'écran tactile.
Ouais, des ongles pas, moi avec le doigt je sais que sur
ouais, mais faut appuyer bien fort pour que ça marche aussi. Faut appuyer quand même bien.
Voilà, est-ce que des fois c'est pas plus pratique d'utiliser le doigt, parce que c'est possible aussi. Des fois, on a vraiment besoin du stylet.
C'est vraiment beaucoup moins précis et il y a moins de chances que ça marche qu'avec le stylet. Faut vraiment appuyer fort et sur une petite surface, sinon ça marche pas vraiment.
Justement, ouais. En parlant, vu que t'en parles, Pof, et qu'en plus ça va te toucher directement, tiens, tu vas moins faire le malin. Tu dis que les doigts c'est moins précis. Donc finalement, t'es en train de me dire que l'écran tactile de l'iPhone, c'est pas terrible quand même.
Bah, c'est ce que je t'ai dit tout à
l'heure. Il l'a déjà dit, oui.
Oui, mais.
Je t'ai dit que les doigts, c'est beaucoup moins précis et que c'est.
Non, mais alors, j'aimerais bien que tu développes en me disant, par exemple, comment certains développeurs ont fait pour pallier à ça, par exemple.
Eh ben, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont mis des boutons en transparence sur l'écran sur lesquels on appuyait pour éviter certains problèmes. Et il faut dire que même si les doigts, ça paraît moins précis, l'iPhone, je ne sais vraiment pas trop comment il fait. Je pense qu'il détecte la surface où on touche et il doit faire un calcul mathématique pour arriver au centre, en gros. Et
en général, ils ne sont pas mathématiques.
Oui, il y a des calculs.
Oui, des calculs rénaux.
Oui,
exactement.
Tiens, prends ça. Veux faire le malin.
Et donc, en général, quand on appuie, par exemple, sur des petites applications genre Brush ou quelque chose comme ça, des choses comme ça qui permettent de dessiner sur l'iPhone, en fait, quand on appuie, même si on met un gros coup de pouce sur l'écran, et ben en fait, ce sera juste un point qui sera apparu pile au milieu de là où on a appuyé.
D'accord. Et ouais. Ça sera ton écran qui s'est pété parce que t'as appuyé trop fort.
Voilà.
Pour montrer à quel point c'est précis, c'est qu'il y a pas mal de sites dont j'ai plus le nom et tout, mais qui montrent des œuvres, parce qu'on peut appeler ça des œuvres de gars qui justement se sont amusés avec Brush ou d'autres logiciels du même acabit sur iPhone. Et toi, même avec un crayon, tu peux pas le faire.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Voilà.
C'est un peu l'idée.
Ils font des trucs de fou que tu te dis, mais vous êtes sûr qu'ils l'ont fait sur un iPhone?
Ah oui, c'est. Il faudrait que je regarde. Tu as pas le nom ou l'adresse rapide du site comme ça de tête un
non,
truc
parce
que les gens pourraient googler.
Je sais que c'est fait avec brush au pluriel, donc je sais pas trop comment de le prendre.
Brushes. Brushes.
Et que c'est cette petite application qui a permis de faire ce genre d'œuvre. Et le nom de quelqu'un qui l'a fait, c'est un dessinateur de chez Disney qui fait beaucoup
d'œuvres,
s'appelle Steph Cardos. Donc tu peux chercher sur Flickr parce que c'est là qu'il les dépose.
Mais si ton application, la Brush, c'est un utilitaire, c'est pas vraiment un jeu. Alors je sais que sur iPhone, il n'y a pas que le jeu, bien évidemment,
mais
vu que dans iPhone, il y a Phone.
Si cette application utilise ce procédé, la plupart des applications le font parce que
c'est pour dire que si tu veux, et si tu développes bien ton application sur iPhone, tu peux être précis, quoi.
Voilà, c'est-à-dire que l'iPhone a quand même une bonne résolution. C'est.
Surtout le 1er janvier.
Ouais, des très bonnes résolutions. Et ça fait que quand tu touches à un endroit, ce que le développeur aura, ce sera pas un truc de son, l'écran fera pas 20 pixels en gros, donc tu auras une position précise alors que pourtant tu as mis ton gros doigt dessus. Donc ce qui se passe, c'est que Apple réussit par des calculs à trouver non pas des calculs rénaux, des calculs mathématiques, répétons-le, réussit à trouver le centre de l'endroit où tu as touché, tiens, on va dévier là.
Surtout un point où tu touches, a priori.
Le centre de l'endroit où tu as touché.
Ouais.
On comme ça. Et donc, ça permet de régler certains problèmes de gens qui ont des énormes doigts.
Oui, mais alors.
Oui, mais d'ailleurs, Bof, en partant du constat que t'appuies sur l'écran tactile sur un point, mais avec ton gros pouce de 3 cm², enfin, je sais pas, je connais pas ton pouce, mais comment tu fais pour savoir où est-ce que t'appuies, quoi?
Ah, bah merci, quelqu'un qui allait poser une question que j'allais poser. En fait.
Le problème, c'est ça, le problème principal, c'est la visibilité, parce que t'as tes doigts en plein milieu de l'écran, donc tu sais pas vraiment toi où t'appuies. Mais le truc, c'est que lui, le programme, le jeu, bah lui le sait.
C'est-à-dire, toi, tu sais pas, mais lui, il le sait. Alors, c'est super utile quand même.
Voilà, c'était pas la même question que toi, Phil. C'était simplement savoir, quand tu prends quelque chose, par exemple, t'as des jeux où tu dois prendre des objets dans le paysage, comment tu fais pour savoir si tu les as bien pris, en sachant que t'as ton gros doigt dessus, quoi.
Justement, le truc, c'est que
généralement, il passe par des zooms ou des choses comme ça, ou comme sur le clavier d'iPhone, si tu veux être le. Voilà.
Le truc, c'est un coup à prendre, c'est que quand tu veux toucher un point précis, eh ben, tu fous un gros doigt en plein milieu, et ça a tendance à marcher. Et c'est ce qui est fait aussi quand on utilise le clavier de l'iPhone ou de l'iPod, c'est on appuie en plein milieu, on appuie à peu près juste sur la touche là où on voudrait qu'elle soit. Donc en gros, on met son gros pouce sur la zone de la touche et lui réussit à trouver par des algorithmes le mot que tu voulais écrire avec son dictionnaire intégré, etc. Bah, c'est le même principe pour certaines applications. En fait, après c'est aux gens qui font les applications de le faire. Si tu appuies à 3 pixels à côté, il faut que l'application te laisse prendre l'objet qui était à 3 pixels, qui te dise pas ah tiens t'as rien touché. Donc après c'est aux gens de s'adapter, c'est pas.
Est-ce que tu as des exemples de bonne gestion justement du fait d'avoir des grosses papattes à la place d'un stylet?
De gestion par rapport
jeux où justement les développeurs ont fait un effort pas mal. De ce côté-là, quoi, qui fait que c'est pas gênant.
Ben, pas vraiment pour appuyer sur un objet, mais j'ai un exemple d'alternative. C'est le jeu MGS Touch qui reprend Metal Gear Solid, où c'est un jeu de shoot, et en fait, on déplace le viseur comme on ferait pour déplacer un curseur sur un trackpad, et on appuie n'importe où sur l'écran pour tirer. Ça peut être une solution aussi sur ce genre de jeu.
Un autre jeu aussi, directement,
je vois pas, j'ai pas d'exemple précis, là.
Si, il y a un jeu aussi, sans empiéter sur toi, qui est vachement bien, je sais pas si vous connaissez, c'est 1112. C'est un jeu de
point and click.
Un peu la Chevalier de Baphomet, par exemple.
Voilà.
J'y ai joué, je l'ai acheté.
Vous avez des tableaux, en fait. Il paraît qu'ils sont peints à la main, donc ça, je demande à voir. Mais où tu poses ton doigt sur l'écran, et en bas, t'as un petit texte qui s'affiche sur ce que t'es en train de toucher, style armoire, tiroir, table, vase.
Ouais, voilà.
Voilà. Mais ça peut être une bonne alternative aussi.
Oui, effectivement.
Moi aussi.
Des choses à rajouter, messieurs ? Une expérience à faire partager sur le côté gameplay, une anecdote particulière?
Non, je pense pas, non.
D'accord, c'est bien.
Merci.
Heureusement que vous êtes là, les gars, je sais pas ce que je ferais sans vous. Bon, et ben puisque c'est comme ça, je vais me venger, hein, justement. Hein, je vais vous mettre une bonne pause musicale dans la tête, et vous reviendrez justement avec des bons arguments pour justement parler de connectivité, de fonctions un peu bonus, enfin bref, tout ce qui tourne autour du jeu et qui est toujours sur la console. On va essayer de pas trop parler de l'iPhone, parce que là sinon on ne s'en sortira pas.
Le débat d'Octet sera de retour sur Pod Radio après cette petite pause musicale.
Mmh. message. And all you've already prayed for is gonna fall into pieces. But you, my pony, you run, run, pony, you run, my pony, you run, run, pony, you.
Bonjour à tous, vous venez d'écouter 629 et si vous nous venez de nous rejoindre, c'est le débat d'octet. Troisième partie sur les consoles portables, connectivité, interface et fonctions bonus pour cette troisième partie. Et justement, on va commencer par la première question, justement, qui risque encore une fois de faire mal à la DS. Oui, j'ai quelque chose contre cette DS, mais aussi c'est Angelus qui est le plus à même de répondre, donc c'est pour ça. Alors, ce qui est assez marquant dans ces nouvelles consoles portables, ou au moins ces plateformes de jeux mobiles, par rapport à la génération juste avant, donc c'était quand même la Game Boy Advance pour mémoire, hein, Ça a pris du vieux quand même. Bon, bref, c'est la connectivité sans fil, entre autres, outre les graphismes évidemment. Alors, est-ce que c'est un gadget ou un réel plus sur la DS, Angelus ?
La connectivité sans fil ?
Oui.
Alors, comment te répondre avec des trucs convenus, étant donné que j'ai pas encore essayé ? Oui, non, ça peut être un réel plus.
Ah, bah bien.
Dans le sens où, non, mais par exemple, tu prends un Mario Kart.
Oui.
Où tu peux jouer soit avec des potes qui sont à 1m2-3 mais toujours en sans fil, soit avec des gens qui sont à l'autre bout. Tu peux quasiment faire du online dans le sens où on l'entend quasiment sur une console de salon et te friter avec le monde entier. Voilà quoi, comme pour voilà encore une fois comme une console un peu de salon. Donc c'est pas que du gadget quoi.
D'accord.
Enfin, dans le sens où, comme d'habitude, dans Nintendo, ça te donne pas accès. Enfin, pour l'instant, peut-être que ça viendra avec la DSi, mais ça te donne pas accès à pléthore d'applications ou d'avantages qui sont, je dirais, multimédia ou autres que pour le jeu. Mais c'est pensé juste dans le sens partage de jeux et jeux à plusieurs, quoi.
Ouais, c'est effectivement le cas pour la DSi. Il y aura bien de la vente d'applications.
Oui aussi, oui, ils ont fait un espèce de DSiWare ou je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, oui, de WiiWare pour DS. Store. Quoi. Voilà, c'est du WiiWare pour DS quoi. Ouais.
Mais justement, t'es grosso modo, j'ai l'impression que tu viens de te tirer une balle dans le pied dès le début de ton argumentaire, Angelus, parce que tu dis pas c'est une tout, fonction monsieur. Qui n'est pas gadget. Mais tu l'as pas utilisé, donc grosso modo.
Mais parce que pour l'instant, monsieur, tu sais très bien que j'ai qu'un jeu et qu'il n'exploite pas ce genre de truc. Alors comment veux-tu que je l'utilise ?
Mais attends, sur la DS, il y a pas un navigateur internet ?
Achetable à part.
Oui,
c'est-à-dire
non,
que
mais
tu as un navigateur internet, tu as un navigateur Opera que tu peux acheter à part et qui je ne sais pas vraiment combien il coûte maintenant.
Non, il sera gratuit. Hein.
Il sera gratuit sur la DS de maintenant où il faut l'acheter et principalement parce qu'en fait tu utilises le port de Game Boy Advance qui est derrière comme cartouche pour extension de mémoire parce que sinon la DS n'a pas assez de mémoire pour gérer une page web.
Oui, mais on en revient justement au principe de base de qu'est-ce que t'attends d'une console portable. C'est clair que si tu veux naviguer machin et faire de l'internet à bord, tu prends un iPhone, tu prends en moindre cas une PSP parce que au bout de 5 minutes tu tires juste une balle.
Mais tu prends pas. Justement, j'aimerais bien que tu laisses à Spring le loisir
mais
de
en tout
répondre
cas, voilà, mais tout ça pour
dire
qu'en
tout
cas
si tu as peut-être un peu.
Si tu veux vraiment surfer et faire du web, tu prends pas une DS, c'est clair.
Si je pouvais
donc,
juste.
C'est pourtant dommage. Attends, si je puis.
Si je pouvais juste défendre la DS un petit instant, parce que Angelus l'a quand même bien des
et pourtant, il est censé la défendre quand même.
Oui. Par rapport au Wi-Fi, le jeu dans la même pièce, c'est-à-dire juste avec le Wi-Fi entre consoles, est quand même très simplifié par rapport au Wi-Fi en ligne qui est le défaut de tous les consoles Nintendo. Mais c'est surtout l'intérêt du téléchargement DS qui permet de jouer avec une seule cartouche de jeu. À plusieurs avec plusieurs DS et c'est un de ses avantages.
Voilà, mais c'est ce que je dis, c'est le Wi-Fi, il est tourné pour le jeu, mais il te donne pas accès à plus comme la plupart des produits Nintendo. D'ailleurs, c'est tourné vers le jeu, mais pas vers des applications multimédia de la mort qui tue, quoi.
Tiens, ben justement, vu que toi tu as une DS, pour toi ce genre de fonction, c'est pas des fonctions qui sont importantes, c'est pas ce que tu attends toi d'une console portable.
Voilà.
D'accord.
Non mais
non,
voilà,
mais c'est,
ce
non, c'est
dans le
question,
contrat. Moi, c'est dans le contrat quand tu, c'est dans le contrat quand tu l'achètes. Donc si tu veux ça sur une console portable, tu prends pas une DS. Mais voilà, moi c'est pas ce que j'attends. Donc.
Et la DSi par contre se tourne beaucoup vers ça, vers le multimédia, vu qu'elle intègre le port de carte SD et qu'elle pourra lire des photos, des films, des musiques, etc.
Bah justement,
je trouve ça un petit peu paradoxal pour je trouve ça juste un petit peu paradoxal pour Nintendo qui eux justement l'habitude de s'ouvrir vachement vers le multijoueur tout ça, de pas proposer des fonctions réseau qui soient plus convaincantes quoi.
Je pense que pour Nintendo le multijoueur c'est les 4 gars dans la même pièce en train de déconner. Et pas des gars qui sont complètement à l'opposé.
Un peu le même principe que pour en revenir à l'ancien débat d'octet que la Wii quoi. C'est-à-dire que c'est plus de l'écran splitté, sauf que là, bon, t'es obligé de jouer de plusieurs consoles parce que l'écran splitté sur DS, c'est juste pas possible. Mais voilà, le but du jeu, c'est d'être dans la même pièce et de pouvoir se vanner et pas tellement du online, quoi.
Ah, tu te l'es bien pris dans la gueule, ma carapace.
Tu l'as bien pris dans la gueule, ma carapace, c'est le gars d'en face qui te prend. Oh, chez une carapace, chez oui, chez les biens. Voilà, si tu es un Allemand à l'autre bout du monde, c'est tout de suite moins fun, quoi. Voilà.
Mais justement, tu parlais de partage de jeux quand on n'a qu'une seule cartouche.
Oui, je parle de partage.
Oui. et ce qui m'étonne, c'est que Spring n'a pas absolument bondi, si j'ose dire, pour amis anglophones.
Non.
Il n'y a pas ce genre de fonction sur certains. Il n'y a pas certains jeux de PSP qui ont cette fonction.
Moi, par rapport à des jeux de vaisseau, j'en sais plus comment ça s'appelle ce vaisseau. Un truc, en tout cas, qui fait. Ah, oui, voilà, Wipeout, excuse-moi. Le premier jeu qui est sorti d'ailleurs, il fallait avoir les deux jeux, c'était bien chiant d'ailleurs. Mais bon, moi, il y avait mon pote, il l'avait acheté, je l'ai acheté aussi, quoi. C'est sûr.
Non, mais en fait, la question c'était l'inverse. C'était est-ce que c'est pas possible de faire pareil que sur la DS?
Ben en fait, moi je réponds sur ce que je sais parce que je connais, je ne saurais pas te citer l'exemple de jeu où faut pas avoir les deux UMD quoi.
Wipeout et Burnout, les deux que j'ai testés, mais après il y en a
et
sûrement d'autres.
Et tu le fais comment en fait? Parce que je vois pas toute la fonction.
Eh bien, en fait, il y a une fonction sur la PSP qui s'appelle partage de jeu. C'est bien parce que normalement c'est Spring qui est censé en parler, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, le truc c'est que du coup ça te met en attente d'une invitation à télécharger le.
Comme sur le téléchargement DS, en fait, c'est le même principe.
Voilà. Et en fait, tu n'as pas le jeu en entier évidemment. Pour pouvoir jouer à tous les niveaux, etc., en multijoueur, faut avoir l'UMD, la cartouche optique qui a jamais marché, vous savez. Et
le Mac qui n'existe plus.
Non, ça a été une catastrophe quand même. Si, l'UMD, ça a marché pour les jeux.
Ouais, ça a marché pour les jeux.
Parce qu'on n'avait pas le choix.
Ça a pas marché pour les jeux. Quoique maintenant, on les trouve à 0,50 centimes sur eBay, hein, les UMD, c'est pas mal.
Ah, c'est l'avantage. Reprenons. La question n'était pas là, j'expliquais donc quelles sont les limitations aussi, c'est que donc du coup tu as 2-3 circuits, ça te permet en fait de découvrir le jeu en multijoueur sur ta console. Et si d'ailleurs tu ne l'éteins pas en rentrant chez toi et tout, tu peux continuer à jouer des fois sur des parties solo. C'est le cas par exemple de Wipeout, ce qui te permet en fait d'avoir une espèce de démo jouable et jouable en multiplayer.
Si tu l'éteins, ça l'efface.
Si tu l'éteins, ça l'efface, oui, effectivement. La mettre en veille, ça marche pour ne pas l'effacer aussi. Voilà, donc je me rappelle de Wipeout, c'était comme ça.
Et tu peux le quitter et revenir dessus.
Non, tu peux
en
pas.
En fait, ça le sauvegarde. Non, t'es obligé de le laisser.
Si tu le quittes, tu le quittes. Et donc, le truc, c'est que à l'époque où j'avais testé, c'était donc avec deux PSP première génération et avec le Wi-Fi en. Ça devait être en B. 11 mégabits seconde, ça ramait un peu, hein. Il fallait attendre quelque chose comme 10 minutes pour que ça charge. Maintenant avec le G ça doit être un peu plus rapide, mais voilà, c'était mais c'est une des connectivités qui donc me fait penser un peu à cette connectivité de la Nintendo DS, pour y revenir.
Ouais. La différence, c'est que j'ai l'impression que sur la Nintendo DS, ça te charge directement le moteur du jeu et le niveau auquel tu vas jouer. Ça te charge pas du tout tous les tous les niveaux, enfin ça te charge pas parce que ça te chargeait pas non plus tous les niveaux, mais ça te charge pas une série de niveaux, quoi. Ça te charge juste ceux que tu vas jouer et ça a l'air vachement contrôlé.
Dans le cas
de toute façon, ça reste dans le même état d'esprit de Sony, hein. Sony, ils ont un état d'esprit bien particulier où faut acheter toutes les fonctions. Et c'est vrai que pour ça. Mais bon, ça n'empêche pas que moi, en tout cas, j'avais acheté ce jeu de vaisseau avec mon pote, avec mon copain, et on avait joué à toutes les courses, en tout cas. Avec les deux jeux, on peut jouer à toutes les courses.
Oui, oui, justement, c'est ça l'avantage d'avoir les deux jeux par rapport au fait de jouer. Sur une cartouche unique, en fait.
Oui, complètement.
Qu'elle soit UMD ou qu'elle soit DS. D'ailleurs, je suppose que sur DS, c'est pareil, on ne peut pas jouer à tous les niveaux. Pour jouer à tous les niveaux, il faut avoir toutes les cartouches, non? C'est comme sur. Par exemple, dans le cas de Mario Kart. Sur Advance, c'était le cas, il me semble.
Ben, ce que je sais, c'est que sur le jeu New Super Mario Bros., tous les niveaux multijoueurs sont jouables en multijoueur par téléchargement DS.
Pratique.
C'est-à-dire que, en fait, dès que le jeu est jouable en téléchargement DS, en général, ça marche avec tous les niveaux. Je connais pas de cas où il faut avoir les deux cartouches pour certains niveaux.
Et sinon, parce que là, ça part toujours dans la connectivité sans fil, ou en tout cas la connectivité à Internet, donc comme c'est une console portable, on imagine difficilement se trimballer un Ethernet, le petit côté mise à jour du logiciel interne. Encore une fois, est-ce que pour vous c'est un gadget ou est-ce que pour vous c'est un réel avantage, un réel plus? Je suppose que sur la DS on peut mettre à jour le logiciel interne via Internet.
Pas, il me semble pas.
Non, moi non plus, il n'y a pas
de problème. On peut pas. On va le pouvoir pour la DSi, mais c'est surtout un problème de protection, quoi. Parce que bon, la course entre les pirates et Nintendo, elle n'est pas terminée et Nintendo a décidé, comme Sony, justement avec la PSP, de mettre à jour son firmware régulièrement, ouais, pour contrer les pirates.
Justement, parlons des mises à jour de firmware de la PSP. Y a-t-il vraiment une utilité? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça apporte des choses réelles?
Oui, l'utilité, elle est plutôt de la part de Sony, en fait. Hein.
Voilà, parce que d'après ce que t'en dis, c'était juste pour contrer les pirates. Mais
Oui, non, pas complètement. C'est vrai que sur la première version de la PSP, sur le premier firmware, il n'y avait pas de navigateur internet. Ça, c'est des choses qu'ils ont rajoutées. Et puis, ça leur sert surtout à faire que tous les... Enfin, si par exemple on achète un jeu récent, il faut obligatoirement avoir la dernière version du firmware. Et pour les gens qui ont jailbreaké, enfin, ça s'appelle pas jailbreaké pour la PSP. Et puis ceux qui ont downgradé, c'est-à-dire qui ont mis un firmware au-dessous pour pouvoir lire les jeux craqués, ils pourront pas lire les nouveaux jeux. Donc il faudra qu'ils se mettent à jour avec la version officielle.
Ou la version piratée supérieure 24 heures plus tard.
Il y a à peu près la même stratégie sur l'iPhone, c'est-à-dire que eux ils ont une approche différente. C'est pas simplement dire que les jeux ne marcheront pas parce que il faut avoir le dernier firmware. C'est tout simplement parce que les derniers programmes usent des derniers API qui sont les fonctions utilisées par les développeurs, et ces derniers sont utilisables seulement si on a le dernier firmware. Donc l'iPhone, étant donné qu'il est très évolutif et qu'il fait que s'améliorer de version en version, et donc apporter des nouvelles fonctionnalités autant pour les développeurs que pour les utilisateurs, si on n'a pas la dernière version, on peut pas bénéficier de certaines fonctionnalités. Et donc du coup on est c'est ce qu'ils essayent de faire aussi pour contrer le problème du jailbreak, ce qui marche pas du tout, vu qu'en général un iPhone est jailbreaké 6 ou 8 heures après la sortie du firmware.
Ouais, c'est pas vraiment le cas pour Sony. Hein. Pour Sony, ils mettent des fois plusieurs semaines, les gars. Ils y arrivent, mais ils mettent plusieurs semaines. C'est pour ça que
ils devraient se contacter entre eux pour se donner des cours. Parce que pour l'iPhone, c'est souvent en moins de 24 heures qu'ils réussissent à le faire. Même là, le firmware 3 n'est pas encore sorti. La DevTeam a déjà dit
oui mais ça vient aussi du fait que tu peux j'allais dire construire, en tout cas développer des choses pour iPhone, qui fait que de toute façon tu as accès à certains codes et à un certain fonctionnement du firmware, que tu développes rien sur PSP. Donc c'est Sony qui a tous les codes, qui sait vraiment comment son truc marche et qui l'ouvre pas du tout. Donc c'est beaucoup plus difficile de craquer un truc qui n'est pas du tout ouvert qu'un truc qui, bah, malgré ce qu'on peut en dire, est assez ouvert comme le firmware de l'iPhone, quoi.
Justement, ouais. Vu qu'on parlait un peu de l'iPhone, il y a Pof qui n'a pas réagi à la question, et je vais quand même la reposer avant pour recentrer le débat et surtout pour insister sur un point bien particulier. Donc du côté console de l'iPhone, hein, je répète, du côté console de l'iPhone, quel est l'intérêt de cette connectivité sans fil dont il dispose ? Parce que c'est quand même le seul parmi les plateformes de jeu dont on parle ce soir qui a l'avantage de pouvoir, en tout cas pour le cas de l'iPhone, pas pour le cas de l'iPod Touch, mais donc de pouvoir être connecté en permanence à l'internet. Est-ce qu'il y a des jeux qui utilisent cette fonctionnalité ?
Je vais d'abord donc parler du connecté en permanence, vu que c'est ce que tu viens de dire, et après je bifurquerai sur les possibilités locales. Mais d'abord t'as les jeux comme TapTap Revenge qui te permettent de jouer en ligne maintenant. Donc tu peux jouer contre n'importe quel joueur n'importe où.
Et tu choisis le joueur, ou c'est un peu comme...
Tu peux jouer avec tes amis, mais tu peux aussi jouer avec n'importe qui dans des
arènes de combat, on va dire.
Voilà, dans des salons, quoi, en gros, de jeu. Et donc c'est des fonctionnalités pour jouer avec n'importe qui directement dans le monde. Et t'as aussi d'autres jeux comme le jeu qui s'appelle, il me semble que c'est Tic Tac Touch le nom. Donc en gros c'est un morpion. Et ça se joue aussi en ligne. Et t'as des tonnes de jeux maintenant, de plus en plus, qui se permettent de jouer directement en ligne grâce à une connexion 3G ou Edge, etc. Sinon, pour en revenir à une utilisation directement du Wi-Fi sur un réseau local, etc., t'as aussi des tonnes de jeux qui permettent de jouer avec avec quelqu'un qui a un autre iPhone ou qui a un iPod Touch, etc., comme le Monopoly qui était sur l'iPod Touch que tu m'as filé, Phil, que je me suis bien amusé avec.
Ouais, d'ailleurs, normalement, t'avais pas le droit parce qu'il était synchronisé avec mon compte iTunes, donc t'es bien gentil, mais tu dois le désinstaller.
Oui, mais de toute façon, il démarrait plus une fois que je l'ai synchronisé avec le mien.
Ouais, c'est pas bien.
On peut jouer en deux joueurs avec le Wi-Fi sur ce jeu-là. Et il me semble d'ailleurs aussi que le Tic Tac Touch, on peut y jouer aussi en deux joueurs avec le Wi-Fi. Et il y a de plus en plus de jeux qui s'ouvrent donc avec cette connectivité Wi-Fi et avec le prochain firmware de l'iPhone. Le Bluetooth est libéré. Oui, libérer le Bluetooth. Bon, le Bluetooth s'est libéré et ça ouvrira aussi des possibilités pour jouer en multijoueur. Donc en fait, l'iPhone se multijoueurise. Voilà, c'est un mot qu'on peut inventer. Donc au niveau connectivité, en fait, oui, c'est quelque chose qui te permet donc d'avoir... et puis surtout, ça te permet de mettre à jour les jeux, ce qui n'est pas présent sur d'autres consoles portables, il me semble. Je sais pas pour la PSP, mais il me semble que la DS, il n'y a pas de mise à jour de jeu.
Non, non, il me semble pas. Mais après, si je veux rentrer aussi dans un mode troll, hein, est-ce que ça en a besoin ?
C'est-à-dire que si trollesque ça, non.
Vas-y, non mais voilà, c'est le côté si tu on peut dire ouais les mises à jour c'est cool parce que tu peux faire évoluer ta machine au fur et à mesure, mais tu peux aussi voir ça sous l'angle de c'est parce que t'as besoin de faire évoluer ta machine.
Bah quelque part,
ça te permet de vivre avec son temps en fait.
Oui, voilà, mais ça parce que je veux dire, il y a personne qui s'est encore qui a encore reproché à la DS de pas d'être un truc dépassé, qui ait besoin de faire mettre à jour, que genre ouais la DS est bien, mais ça y a pas et ça y a pas.
Bah il y a pas de navigateur internet, par exemple. Alors surtout oui, que mais c'est dommage.
La question c'est
part...
est-ce que les gens se sont plaints
je veux dire quelques... est-ce que tu enfin, personnellement.
S'il y a eu un navigateur internet qui est sorti, c'est bien que
oui,
des gens
en
avaient besoin.
Voilà. C'était un peu ce que j'allais dire. Mais surtout, le truc, c'est que, de mon avis purement perso d'utilisateur, j'avoue qu'une DS m'aurait bien tenté, mais ce qui n'a pas été rédhibitoire, mais ce qui a fait en sorte qu'elle m'a moins attiré, c'est que on peut pas facilement, et on va dire de façon standard, sans qu'on ait à rajouter une cartouche dans les deux orifices, c'est donc de pas pouvoir profiter de l'écran tactile pour avoir quand même un navigateur mobile tactile, quoi. C'est un des trucs que j'ai trouvé quand même relativement ballot, pour ne pas dire.
En même temps, faut dire que vu la qualité de l'écran, je sais pas si c'est vraiment possible d'adapter. Enfin bon, j'attends de voir avec la DSi, mais.
Bah il y a
au moins les sites en version mobile. Ça aurait été pas mal.
Oui, au moins, oui.
Bon, pas de WAP.
Je crois que pour la DSi, il y a un système de loop, il me semble, comme chez les téléphones Nokia.
Ben comme l'Opéra de DS en fait, hein, parce qu'en fait l'Opéra de DS, parce que j'ai eu la chance de le voir et de le tester, le navigateur Opéra qu'il y avait sur DS, c'était en fait l'écran tactile en bas qui était la page complète, et on avait une espèce de cadre qu'on pouvait déplacer avec l'écran tactile, et sur l'écran du haut on voyait ce que c'était en gros, on voyait ce qu'il y avait dans le cadre en zoom.
D'accord.
Donc
mais bon...
c'était assez maniable, et il me semble qu'en gros il y avait un système pour inverser les deux écrans pour pouvoir cliquer sur les champs de texte ou quelque chose comme ça.
Je tiens à préciser un truc qui n'a rien à voir. Angelus, on ne tweet pas pendant les enregistrements. Je te rappelle, je suis abonné à ton flux, hein. Donc ça déconcentre le petit oiseau qui fait cucu dans mes oreilles. Donc reprenons.
Oui, juste pour dire, c'est pas quand même vraiment une console qui est étudiée pour pouvoir naviguer sur le web. Je suis d'accord,
mais c'est
ce que je dis.
C'est dans le contrat quand tu l'achètes, quoi. C'est une console pour jouer.
Mais par rapport à un contrat quand t'achètes une console, parce que t'arrêtes pas d'en parler.
Ouais, c'est un contrat moral, monsieur, entre toi, ta conscience et ton banquier.
Et ton, oui, voilà ce que j'allais dire. Mais justement, là, on est en train de débattre des fonctions annexes, donc qu'il y a sur chaque plateforme. Hein. Donc toujours dans cette philosophie de convergence
de
numérique.
De casser les dents à la DRS.
Non, parce que je sais de toute façon que moi c'est pas la PSP, je la prends presque plus pour les fonctions annexes que pour les jeux, parce que d'un point de vue jeu c'est quand même une catastrophe,
voilà,
et ça je l'admets.
C'est ce que je disais en début de podcast.
Justement.
En gros, tu fais tout avec une DS, avec une PSP, sauf jouer.
C'est un peu le principe, parce que il y a quand même des jeux que je trouve absolument excellents, la lignée des GTA par exemple.
Le Coroco,
c'est énorme, oui, effectivement, je l'ai.
Génial les gars, vous avez deux jeux.
Burnout. Les deux Burnout qui sont sortis. Il y a pas mal de jeux. Il y a Medieval aussi sur lequel j'ai joué. Il y a des jeux. Franchement, il y en a pas une pléthore comme sur DS.
Medieval, c'est un jeu PS1. Hein, je tiens juste à te le dire.
Quoi? Medieval, ils ont refait une adaptation, mais bon, là n'était pas la question, et normalement le MC n'est pas censé rentrer dans le débat. Même si j'avoue que j'ai un peu de mal.
Voilà. Mode troll.
C'est que des portages entre.
Bon, le troll, tu t'arrêtes ou je lance un D10 et je te lance un sort de je te raccroche Skype à la gueule. Alors, sinon.
Et comme dit le proverbe rôliste, cochon qui sent des 10. Oui, vas-y.
Bon, quelles sont les fonctions annexes que vous appréciez sur les plateformes qui en proposent? Tiens, voilà, prends ça à la DS. Bah écoute, hein, c'est toi qui l'as ramené la dernière fois.
Dis le gars qui va se boire un café pendant ce temps-là.
Quoi?
Bah, je vais juste aller me boire un café là parce que.
Mais non, mais parce que tu as un iPhone toi aussi.
Bah, je préférais commencer par dire moi, ma console de jeu, elle téléphone, et elle fait internet, et elle fait calculatrice, et elle fait email.
Oh non, c'est petit, ça c'est petit. Forcément, c'est un téléphone.
Oui, mais la question qu'on peut se poser, c'est finalement la console ultime, est-ce que c'est pas celle qui est incluse peut-être
par rapport à ce que disait Spring justement tout à l'heure.
Oui.
C'est qui disait si on par rapport aux trois consoles, ce qu'il conseillerait à quelqu'un, c'est une PSP si c'est vraiment un gamer. Bah moi non, je conseillerais un iPhone parce qu'il téléphone. Donc ça fait un téléphone, ça fait un baladeur. C'est en fait il y a énormément de fonctions.
Sauf que là tu prends le problème à l'envers. C'est que le téléphone n'est pas une fonction annexe de ta console. C'est ta console qui est une fonction annexe de ton téléphone.
Bah dans ce cas tu prends un iPod Touch.
Justement, pauvre pour les gamers, les gamers ils demandent quoi? Ils demandent une vraie console. Moi, ils demandent pas que leur console serve leur café ou quelque chose comme ça, quoi. Non, ils veulent une vraie console. Je pense que la PSP. Non, mais je pense que la PSP c'est quand même la seule console qui permet d'avoir vraiment des jeux de très bonne qualité graphique. C'est pour ça que je voulais dire que.
Oui, c'est sûr, graphique, mais après, au niveau de la recherche, il y a beaucoup de portages et beaucoup d'adaptations. Alors que sur la DS, étant donné que, comme je disais tout à l'heure, en fait, comme c'est un gameplay différent, on dirait qu'ils se creusent un peu plus la tête pour faire des jeux un peu plus indépendants. Bah,
c'est ce que je disais aussi avec la DS.
C'est un jeu totalement différent sur DS que sur PC ou Mac ou quoi que ce soit.
Et sur iPod et par rapport à la version iPod Touch.
Et la version iPod Touch est quand même vachement simplifiée. C'était un peu dommage parce que ils n'exploitent pas à mon avis complètement l'iPod. Mais ça, c'est un autre
débat. Là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est au niveau graphisme quoi. Je pense que la plupart des jeux, l'iPod Touch, iPhone, hein, parce que bon, faut pas, c'est les mêmes. Oui. A pas grand chose à envier à la PSP. Hein.
Ouais, je suis d'accord
aussi des boutons.
Je suis d'accord, mais. Mais
sur le plan graphique,
monsieur.
Des boutons, toujours.
Non, mais franchement. Non, moi je trouve que peut-être qu'à mon avis, l'iPhone est très bien au niveau graphique, mais il est sous-exploité. Parce que, ok, il y a des jeux qui sont très beaux, mais c'est pas des jeux auxquels on va jouer pendant 3 ou 4 heures d'affilée.
Ah mais ça reste le côté casual gaming et c'est.
Ça reste un problème de batterie, monsieur.
Ça reste un problème de batterie.
Ça sera un problème de batterie, ouais.
Pas bête. Surtout, c'est du casual gaming comme la Wii, quoi, par exemple. La Wii, c'est pas fait pour les mecs qui vont passer 6 heures dessus, quoi. Et là, il n'y a pas de problème de batterie.
Donc, la Wii, maintenant, Nintendo à se rendre compte qu'il faudrait qu'ils attirent un peu les vrais gamers et ils commencent à sortir des jeux qui sont pas mal.
Ouais.
Mais je dirais que si tu regardes la photo qui vient de tomber de Need for Speed sur iPhone, tu vois quand même que la qualité est quand même énorme pour une console portable, je trouve.
Ah oui, tout à fait, mais en même temps, les Need for Speed pour PSP sont pas mal non plus. Hein.
Le seul truc qui manque vraiment à l'iPhone, c'est de l'anti-aliasing, parce qu'il y en a vraiment pas du tout, quoi. Et c'est horrible, et on le voit dans beaucoup de jeux, beaucoup d'applications. Il y a du crénelage un peu partout, sur tous les contours.
Ouais. Mais de toute façon, l'écran de la PSP. Pendant les enregistrements.
De quoi ?
On ne tweet pas pendant les enregistrements, pof. C'est pas possible, les mecs. Comment on fait pour faire un débat et tweeter en même temps ?
Et est-ce que tu peux suivre le débat et arrêter de parler ? Ouais, on est tous multicœur.
Ouais, pas moi, j'en ai qu'un, je suis désolé. Et en plus, il est dédié à ma femme, c'est dommage.
Oh, je m'attendais, il est déjà pris, mais c'est pas mal.
Si vous permettez, je vais être obligé malheureusement de vous couper un peu dans votre élan, parce que quand même, il nous reste peu de temps. Il nous reste 7 minutes pour être très exact. Et j'aimerais bien que dans un premier temps, déjà, vous me donniez tous les trois titres phares qui sont donc spécifiques à chacune de vos plateformes et qui valent le coup de choisir donc une plateforme plutôt qu'une autre, parce que l'iPhone n'étant pas à proprement dit une console. Donc du coup, commençons par Angelus. Trois titres.
Bon, ça tombe bien, j'en ai que deux là pour l'instant. Mais bien sûr, comme toute console Nintendo, les Zelda.
Oui.
Donc celui qui est sorti, celui qui va sortir. Ouais, non, mais il est pas encore sorti. Le professeur Layton, qui est foncièrement une tuerie, puis en plus qui exploite bien le côté graphique. Et alors attends, je vais prendre 30 secondes pour t'en trouver un troisième. Ouais, non, mais. Ouais, mais après c'est un bon RPG, mais après je dirais pas que c'est le jeu sur lequel il faut se jeter.
Et Mario 64, ça vaut pas le coup de l'avoir en portable.
Non, mais et Mario Kart.
Ah oui, Mario Kart, pas bête. Pas bête Mario Kart, effectivement. Parfait. Adrien, Spring, enfin je vais m'y faire, c'est juste que c'est marqué dans ce
cas-là.
Oui,
s'il te plaît. Juste changement. Moi je dirais, moi j'adore, je suis absolument fan de Loco Roco, j'avais déjà cité, mais voilà, mieux vaut deux fois qu'une. Moi j'aime bien aussi les jeux de plateforme, donc Medieval Resurrection, j'aimais vachement. Et puis sinon, un petit Lego Indiana Jones, voilà.
D'accord.
J'aimais bien.
Je vais me permettre de rajouter deux titres à ta
vas-y,
liste.
Vas-y. Hein,
GTA Liberty City Stories et GTA Vice City Stories. Voilà, ça va en étonner plus d'un. forcément. Sinon, il y a les Burnout, que c'est le genre de choses que j'ai adoré faire dans le train. Faire des gros crashs le soir
propriétaires PSP. Il y a aussi les. Ouais. Tu l'as évoqué un peu tout à l'heure, les Wipeout.
Exact. Ouais. Mais bon, en même temps, je suis pas un grand fan après. Mais...
Non, moi non plus. Mais d'ailleurs.
Possible.
Non, mais Burnout, c'est vrai, juste pour rebondir sur ce que tu disais, c'est quand même un gros défouloir. Et dans le train, c'est vraiment génial. Pour ceux qui ont une PSP, c'est vrai que je leur recommande, s'ils ont des longs voyages ou des choses où ils sont un peu stressés, d'acheter Burnout, parce que c'est vrai, c'est pas mal. J'ai aucune option chez EA, mais c'est vrai que c'est bien.
Non, ça déstresse. D'ailleurs, j'aimerais bien un petit Burnout sur iPhone. Et justement, je me tourne vers Pof. Pof. Trois titres qui valent le coup d'acheter un iPhone spécialement pour jouer à ces jeux. Tiens, alors, vas-y, galère.
Je te dirais Tap Revenge 2 et Tap Revenge Complet. Non, alors je dirais déjà tu niques ma vanne, c'est pas sympa. Ouais. Alors,
et aussi What to Cook.
Tap Revenge, Aurora Face, qui est quand même un jeu vachement sympa, qui est un espèce de... vraiment un Tetris, mais ouais, c'est un puzzle game quoi, en gros. Et sinon Pick and Play, non je plaisante, on m'a payé pour dire ça
s'il nous écoute.
Non, parce que Pick and Play est un jeu assez commun, on en trouve
mais
des...
c'est un jeu de memory,
c'est un jeu sympa, mais
c'est le meilleur jeu de memory que j'ai vu sur l'App Store, franchement.
Je sais pas, parce que c'est pas vraiment le genre de jeu auquel je joue, donc si j'étais pas bêta tester, j'en aurais pas joué.
Mais après, c'est clair que c'est pas là-dessus que tu vas toucher, mais c'est un très bon jeu de memory,
il a une réalisation magnifique, perfectible, sur 2-3 points, comme toute création humaine.
Et puis les cartes se retournent très bien, il y a des très belles animations.
Voilà, non,
et franchement. Dans le coin, là, c'est vraiment très beau.
C'est du bon boulot, je vois pas en quoi c'était censé être drôle. D'autres applications que tu pourrais rajouter?
J'ai dit Aurora Face, les Tap Revenge, et je sais pas, parce qu'après il y en a tellement, donc il y a plein de petits trucs, peut-être Jelly Car qui est assez atypique, ou alors les Touch Physics, enfin tout ce
voilà, justement, moi j'aurais parlé des High Physics. Par exemple,
voilà, ils sont énormes, les physiques.
Qui sont des jeux que je pense pas trouver sur une autre plateforme.
Et si, c'est sorti sur PC. Ils en ont parlé sur un site qui parle de jeux vidéo et qui se termine par .com avec le même mot que j'ai dit avant. et ils ont fait un gaming live dessus et ils ont pas cité une seule fois le fait que ça venait de l'iPhone, c'est exactement le même principe, sauf que c'est avec une souris, mais c'est le même principe.
C'est presque moins intéressant.
Sur une étoile. Ouais. C'est une balle qui doit arriver sur une étoile. Je sais pas, c'est peut-être plus maniable, pour le même principe qu'on disait tout à l'heure, que t'as pas les doigts en plein milieu de l'écran.
Ouais. Bon, messieurs,
et puis
vous avez
une souris sur un 22 pouces, mais voilà.
Je voudrais juste rajouter. Oui, mais rapide. Alors.
Oui, juste rajouter dans les trucs pour iPod et iPhone, 1112, Enigmo et Edge. Ces trois jeux, ils sont vraiment géniaux.
Enigmo, c'est le principe super, de gouttes qui rebondissent ou qu'on doit, on doit faire aller dans un pot, et c'est pas si facile que ça. Il existe sur, il existait sur Mac avant d'ailleurs, et donc il n'est pas spécifique à la plateforme. 1112 par contre a une réalisation magnifique. Si vous êtes fan des Chevaliers de Baphomet par exemple, c'est pas mal. Le problème c'est que c'est que le premier épisode, il en sortira d'autres. Et c'était quoi le dernier que tu avais dit, parce que je me rappelle plus.
C'est Edge. Edge, c'est une espèce de petit cube en 3D. C'est une réalisation au niveau graphique, c'est vraiment pourri. Mais c'est super bien au niveau gameplay. C'est un petit cube qu'il faut faire rouler sur des plateformes qui bougent. Et en tout cas, je vous conseille vraiment de l'acheter. Je crois que c'est payant. Mais c'est vraiment super. Edge, E-D-G-E.
D'accord.
Et c'est un jeu qui existait déjà sur Windows Mobile.
Et comme il nous reste moins d'une minute, je vais vous remercier d'avoir participé à ce débat. Je vais remercier les auditeurs qui ont écouté ce débat. Remercier le MC qui l'a réalisé, et je me remercie de mon remerciement. Et sinon, j'invite toutes les personnes qui veulent participer au débat, qui ont des choses à dire sur... et la semaine prochaine, c'est quoi d'ailleurs? Parce que c'est moi qui ai donné le sujet, et puis je m'en rappelle plus, c'est malin. Les Mac sont-ils vraiment plus chers que les PC? Donc gros sujet de troll. Et ensuite, on cherche aussi des Linuxiens. Et après, on va parler évidemment de Windows 7. Donc, avec ses nouveautés, ses améliorations, est-ce que ça va vraiment valoir le coup de passer de XP à un autre système? Voilà, donc si vous avez envie d'en parler, vous me contactez. Du moment que vous avez un micro vaguement potable, vous avez vu Spring ce soir. Donc, si vous avez des idées intéressantes, envoyez-moi un petit mail avec vos idées et il n'y a pas de problème, vous participerez au débat. Et Spring, c'était pas très difficile quand même. T'avais la pression avant, ça va. C'est
j'avais
pas...
juste un énorme couteau sur la gorge, parce que ce que vous savez pas, c'est qu'en fait, Phil, il est juste à côté de moi, là.
Non, c'est pas vrai, t'aurais pas un son aussi pourri. Tiens, prends ça. Bon, sur ce...
Mais tu l'as fait exprès, tu m'as mis un tissu sur la gorge.
C'est ça. Bon, messieurs, malheureusement, il va vraiment falloir qu'on se quitte, car vous l'entendez, il y a la petite horloge qui se met à toquer. Donc, écoutez, à la semaine prochaine, on va faire gros sujet de troll avec un peu des doses de Windows. Ça peut être intéressant, on va bien préparer le dossier. On espère vous retrouver nombreux à l'enregistrement mercredi à 19h30.